Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi qui, des tourments de la crise d'adolescence à la poésie et sa beauté qui nous réjouit, vont vous donner le sentiment d'exister.
Comment peut-on avoir à la fois un développement de la science et un effondrement de tout ce qui donne un sens à la vie des gens ? La vie au sens où je l'entends, c'est-à-dire non pas du tout de la vie biologique, mais de la vie telle que nous la vivons, telle que chacun entend par sa propre vie. Et puis d'abord, la vie tout court, c'est-à-dire ce que nous sommes, cette vie dont chacun dit qu'elle est triste, ou qu'elle est gaie, ou qu'elle n'est pas si mauvaise qu'on le dit, etc., ou qu'elle est brève. Alors c'est cette vie-là qui est gravement en question. Pourquoi ? Parce qu'elle est liée à la culture, parce que la culture, sous ses formes fondamentales et traditionnelles, n'est rien d'autre que le développement de cette vie. Parce que cette vie est un mouvement qui... elle aspire à s'accroître et à se développer. Prenons par exemple, cette vie, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord la sensibilité. Et qu'est-ce que c'est que l'art, qui est une des valeurs fondamentales, dont vous parlez beaucoup et à juste titre ? Ça n'est rien d'autre que le développement de la sensibilité. Par exemple, chaque œil veut voir davantage. Et l'art est l'ensemble des dispositions concrètes par lesquelles on permet à l'œil de voir davantage, c'est-à-dire de percevoir des rapports qu'il n'a jamais perçus, des formes nouvelles, des couleurs, etc.
Bonjour Paul Audy.
Bonjour Géraldine Mostyn-Savoie.
Vous êtes philosophe, enseignant, membre statutaire de l'équipe de recherche Philepol à l'Université Paris-Descartes. Et vous êtes l'auteur en cette rentrée de 3 essais, Analyse du sentiment intérieur et Au sortir de l'enfance, tous deux parus aux éditions Verdier, mais aussi de Et j'ai lu tous les livres, Mallarmé, c'est lent, paru quant à lui aux éditions Galilée. On vient d'entendre Paul Audy pour ouvrir cette émission, la voix du philosophe Michel Henry, disparu en 2002, auquel vous rendez un hommage au tout début de votre livre « Analyse du sentiment intérieur ». Que représente Michel Henry pour vous ?
D'abord, ça m'a fait grand plaisir d'entendre sa voix. Je ne l'ai pas entendue effectivement depuis bien longtemps. Le livre « Analyse du sentiment intérieur », je l'ai placé sous l'égide de Michel Henry. D'abord pour lui rendre l'hommage qu'il méritait de recevoir et puis lui dire aussi que ce que je pouvais développer, élaborer autour de l'affectivité, l'affectivité de la vie, eh bien je lui en devais les principales intuitions. Alors, voilà, je crois que la personnalité, la pensée, l'écriture de Michel Henry est une richesse dans laquelle j'aime énormément puiser.
Il est peu connu en France, Michel Henry. Enfin, on le connaît peu, on connaît peut-être certains de ses livres, mais on entend peu sa voix, on le travaille peu. Et pourtant, ce qu'il dit dans cette archive sur la vie, sur la sensibilité, sur l'art, semble être des enjeux, des thèmes incontournables pour la philosophie et que l'on retrouve dans vos 3 essais, Au sortir de l'enfance, donc Analyse du sentiment intérieur que vous venez d'évoquer, et puis Et j'ai lu tous les livres, Mallarmé, c'est lent. Est-ce que c'est ce lien qu'il y a entre ces 3 livres, cette idée de la vie comme sensibilité et comme l'art, comme accroissement de cette sensibilité ?
Oui, il est évident que si l'on voulait trouver des points communs entre ces 3 livres, ces travaux différents, thématiquement différents, eh bien je pense que ce serait l'importance que je donne à la sensibilité, au corps sensible, à la manière dont nous nous éprouvons dans la vie, qui est effectivement au cœur des 3 problématiques, que ce soit celle de la subjectivité, celle de l'adolescence ou celle de la poésie. Dans les 3 cas, c'est cela. Mais ce qui distingue peut-être la définition que je donne de la vie par rapport à celle que nous avons écoutée...
Parce que la vie, ça peut être très vague.
Oui.
Alors, il dit que ça n'est pas la vie biologique, mais...
Alors, Michel Henry donne une définition phénoménologique de la vie, c'est-à-dire la vie est ce que nous éprouvons. C'est l'ensemble des déterminations qui se manifestent à nous à travers, justement, l'épreuve que nous en faisons, que nous en avons. Et cette épreuve, elle est fondamentalement affective. Et c'est pour ça que dans l'archive, il dit mais c'est la vie dont nous parlons lorsque nous disons je suis triste, je suis gay, je suis heureux, etc. Bon. Dans l'essai que j'ai écrit, j'ai essayé de déplacer un tout petit peu le lieu dans lequel la vie en tant que mouvement affectif se déploie, et j'ai essayé de l'analyser en termes de plan. C'est le plan sur lequel nous nous tenons. C'est un plan invisible, personne ne le voit. Il a une singularité, c'est qu'il est aussi individuel. Le plan qui est celui de ma vie n'est pas le plan de la vie, mais de quelqu'un d'autre. Ce plan, il se construit, il se forge au fur et à mesure des événements et des expériences que nous avons en première personne. Et ce plan, il a une structure particulière. Si vous voulez, il faudrait l'imaginer. En fait, c'est une image, ce plan. C'est lorsque je dis que la vie est un plan, c'est une image, évidemment. Mais cette image, je voudrais peut-être te la préciser davantage en vous disant que le plan a deux faces. Il a un avers et un revers. Sur la première face, ce qui en quelque sorte détermine l'ensemble des événements que nous éprouvons et la manière dont nous éprouvons ces événements, c'est ce que j'appelle l'amour de soi. C'est un sentiment d'exaltation qui fait en sorte que nous élargissons à l'ensemble des éléments qui sont à notre portée. Et puis l'autre côté de ce plan, ce n'est pas l'amour de soi, mais c'est le désespoir, c'est-à-dire une manière d'éprouver sa vie comme quelque chose qui nous réduit à nous-mêmes, qui nous fait nous resserrer sur nous-mêmes, et qui fait en quelque sorte que nous finissons par ne plus pouvoir respirer. C'est Kierkegaard qui dit que la formule du désespoir, c'est du possible, sinon j'étouffe. Eh bien, c'est la vie et ce plan où il y a une possibilité d'étendre le champ des possibles, et puis il y a l'inverse, absolument l'inverse, qui est la réduction des possibilités à une seule. Et cette seule possibilité est souvent celle qui nous incite, qui nous conduit à la plus dangereuse des attitudes vis-à-vis de la vie elle-même.
On retrouve dans ce que vous dites, Paul Odile, le vocabulaire qu'on a entendu dans l'archive de Michel Henry, qui est celui d'accroissement ou de resserrement, de réduction, mais là, de ce sentiment d'exister qui n'apparaîtrait que dans un excès ou que par défaut. Presque, mais il y a plein de moments dans la vie où on a ce sentiment d'exister, ni par exaltation, ni en étant replié sur soi-même.
Vous avez tout à fait raison.
En fait, souvent on vit sans même savoir que l'on vit.
Bien sûr, bien sûr. Mais la conscience que nous prenons de la vie n'est pas du tout le sentiment de vivre. Ce sont deux choses différentes. La conscience que nous prenons de la vie est une conscience réfléchie du fait même que nous sommes en vie et des différentes modalités au travers desquels la vie se manifeste. Mais le sentiment de vivre est quelque chose de différent. Il ne sollicite pas la conscience qui se rend présent quelque chose sur un mode, si vous voulez, positionnel. Je ne pose pas le fait que j'existe, puisque je ne peux pas mettre ma propre existence à distance de moi. elle est moi-même, elle est entièrement moi-même, et moi-même, je suis entièrement cette existence-là. Donc, dans cette immédiateté, il n'y a pas de distance réelle, et cette immédiateté, elle est en quelque sorte cernée, elle est caractérisée par quelque chose qui est de l'ordre de l'affectivité. Et c'est pour ça que Rousseau, qui était particulièrement attentif à ce phénomène, qui est une sorte de proto-phénomène de la vie, le phénomène le plus fondamental, parlait lui du sentiment de l'existence, mais dans ce génitif, sentiment de l'existence, il ne fallait surtout pas entendre un sentiment que l'on aurait de quelque chose qui est à distance de soi. C'est plutôt l'existence qui est le sentiment d'elle-même.
S'il est un état où l'âme trouve une assiette assez solide pour s'y reposer tout entière et rassembler là tout son être, sans avoir besoin de rappeler le passé ni d'enjamber sur l'avenir, où le temps ne soit rien pour elle, où le présent dure toujours sans néanmoins marquer sa durée et sans aucune trace de succession, sans aucun autre sentiment de privation ni de jouissance, de plaisir ni de peine, de désir ni de crainte que celui seul de notre existence, et que ce sentiment seul puisse la remplir tout entière, tant que cet état dure, celui qui s'y trouve peut s'appeler heureux. Non d'un bonheur imparfait, pauvre et relatif, tel que celui qu'on trouve dans les plaisirs de la vie, mais d'un bonheur suffisant, parfait et plein, qui ne laisse dans l'âme aucun vide qu'elle sente le besoin de remplir. Tel est l'état où je me suis trouvée souvent à l'île de Saint-Pierre, dans mes rêveries solitaires, soit couchée dans mon bateau que je laissais dériver au gré de l'eau, soit assise sur les rives du lac agité, soit ailleurs, au bord d'une belle rivière ou d'un ruisseau murmurant sur le gravier. De quoi jouit-on dans une pareille situation ? De rien d'extérieur à soi, de rien sinon de soi-même et de sa propre existence. Tant que cet état dure, on se suffit à soi-même comme Dieu. Le sentiment de l'existence, dépouillé de toute autre affection, est par lui-même un sentiment précieux de contentement et de paix, qui suffirait seul pour rendre cette existence chère et douce, à qui saurait écarter de soi toutes les impressions sensuelles et terrestres qui viennent sans cesse nous en distraire et en troubler ici-bas la douceur. Paul Audy, vous avez prononcé le nom de Rousseau et ce terme de sentiment de l'existence. Je viens de lire un extrait de la 5e promenade des rêveries du promeneur solitaire de 1776, où on entend ce terme de sentiment de l'existence. Dans votre essai, Paul Audy, vous parlez du sentiment intérieur. Alors, quelle différence faire entre ce sentiment de l'existence et ce sentiment intérieur ?
Je ne fais pas de distinction. Je préfère personnellement l'appeler sentiment intérieur, et je vais vous dire pourquoi bientôt, plutôt que de l'appeler sentiment de l'existence, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir que dans le génitif de l'expression sentiment de l'existence, cela peut susciter une sorte de malentendu, et pour bien spécifier qu'il s'agit d'une immédiateté et non pas d'une sorte de dualité entre un sentiment et un objet qui serait senti, que le sentiment de l'existence est d'abord un se sentir soi-même, eh bien, je préfère employer le mot de sentiment intérieur. Alors, il y a une autre ambiguïté qui vient se coller à cette autre expression, c'est que on aurait tendance à penser que le sentiment intérieur serait un sentiment qui serait vécu, si vous voulez, à l'intérieur, et qu'il y aurait d'autres sentiments extérieurs qui seraient, eux, suscités par des rencontres, des objets, des événements qui arriveraient au sujet. Ce n'est pas tout à fait ce que signifie sentiment intérieur. Sentiment intérieur, cela veut dire sentiment qui se sent lui-même et qui n'a besoin de rien d'autre que de lui-même pour se sentir. c'est une
sans
forme
qu'il y ait forcément conscience de ce sentiment.
Alors, il se manifeste non pas à l'intérieur d'une conscience intentionnelle ou d'un entendement, mais il vient en quelque sorte, dans son auto-affection même, il vient transir le corps.
Il nous étreint.
Le corps est le lieu dans lequel ce sentiment intérieur se manifeste. Et le corps est dans ses diverses dispositions, dans ses mouvements propres, jusque dans ses gestes, il porte le témoignage de ce sentiment intérieur. Alors, ce sentiment intérieur, il est hautement qualifié. Je vous ai dit, il y a deux déterminations principales qui viennent colorer le sentiment intérieur. Soit il est de l'ordre de la jouissance, soit il est de l'ordre de la souffrance, mais dans les deux cas, si vous voulez, les tonalités qui le constituent sont très très mêlées, très entrecroisées. Quand on jouit de soi, on est en quelque sorte à la limite d'une forme d'insupportation aussi, si vous voulez. Et la souffrance aussi laisse intervenir une forme de jouissance.
Oui, Rousseau d'ailleurs en témoigne.
Voilà. Alors justement,
très ambivalent sur cette jouissance du désespoir et de la solitude.
Toutes les rêveries du promeneur solitaire sont justement l'analyse extrêmement minutieuse de ces moments où, réduit à lui-même, le soi qui se sent, eh bien, n'arrive plus véritablement à faire la distinction entre ce qui est de l'ordre d'une jouissance de soi et ce qui est de l'ordre d'un se-souffrir.
Comment en êtes-vous venu, Paul Audy, à travailler sur ce sentiment intérieur ? Parce que toute l'ambiguïté de ce sentiment intérieur, c'est qu'il n'est pas saisi par une conscience. Nous en avons le sentiment, le sens, au moment de désespoir, au moment de jouissance, donc à certains moments limites. Finalement, provoquer cette recherche, cette volonté de saisir ce sentiment intérieur, c'est presque une mission impossible.
C'est peut-être une mission impossible pour le philosophe, mais je dirais que pour l'écrivain, pour le poète, c'est loin d'être une mission impossible. C'est peut-être l'objet même de son œuvre, de son travail, de son attention. Il va jusqu'à justement débusquer ce qui fait la consistance du soi.
Et qui n'est pas le moi. Il faut que vous peut-être aussi distinguez ces deux pronoms que l'on a tendance à identifier.
Oui, alors... Bon, alors là, on entre dans une sorte de raffinement, si vous voulez, philosophique.
Qui constitue quand même le sens aussi
de votre
essai.
Bien sûr, le moi est essentiellement porté par une présence à soi-même, une présence qui fait que le moi a conscience de lui-même, il a conscience d'être soi. Mais justement, pour que le moi puisse être en présence de lui-même, il faut que ce lui-même, en quelque sorte, préexiste à cette prise de conscience de soi. Et c'est ce lui-même que l'on entend dans être présent à soi-même, c'est ce lui-même qui a pour nom le soi, et c'est en ce sens-là qu'on peut distinguer le soi et le moi. Il y a en quelque sorte toujours une forme de précédence d'une singularité qui se manifeste d'une manière ou d'une autre et qui permet au moi de dire « je ». Et c'est cette précédence que j'ai essayé d'analyser, non pas seulement en termes de précédence, quelque chose vers lequel je vais me retourner, mais qui est en quelque sorte déjà là puisqu'il me porte à être moi-même, mais je l'ai aussi analysé en termes d'excédence. Alors vous avez peut-être vu que dans ce livre, ce mot « excédence » prend une tournure particulière. Et pour approcher cette idée que le soi est quelque chose qui nous déborde, qui nous dépasse, sur lequel nous n'avons aucune prise, eh bien, je n'ai pas trouvé d'autre manière de le dire que de voler ou de m'emparer d'une manière de dire qui est celle de Samuel Beckett dans son texte qui s'appelle « Cap au pire ».
Et qu'on va tout de suite écouter.
Pire moindre, plus pas concevable, pire à défaut d'un meilleur moindre. Le meilleur moindre, non. Néant le meilleur pire, non. Pas le meilleur pire, néant pas le meilleur pire, moins meilleur pire, non. Le moins meilleur pire, le moindre jamais ne peut être néant, jamais au néant ne peut être ramené, jamais par le néant annulé, inannulable moindre. Dire ce meilleur pire, avec des mots qui réduisent, dire le moindre meilleur pire, à défaut du bien pis que pire, l'imminisable moindre meilleur pire. La paire, les mains, mains étreintes étreignant, ce peu s'en faut vrai, comme lorsque d'abord dites sur mains atrophiées la tête, mains atrophiées, eux là donc les mots, maintenant ici étreintes étreignant, comme lorsque d'abord dit, dédit lorsque plus mal dit, oust, main étreinte étreignant. Les vides aussi, oust, nulle main dans le... Non, gardez au fin de pire à dire, tant mal que pire, tant mal que pis, dire pour l'instant encore vu, blanc obscur, deux mains vides d'un blanc obscur, dans la pénombre vide. Ainsi cap au moindre encore, tant que la pénombre perdure encore, pénombre inobscurcie, ou obscurcie à plus obscur encore, à l'obscurissime pénombre, le moindrissime dans l'obscurissime pénombre, l'ultime pénombre, le moindrissime dans l'ultime pénombre, pire inempirable. Quel mot, pourquoi alors ?
Paul Audit, quel texte incroyable que cet extrait de Cap au pire de Samuel Beckett interprété par Vincent Schmitt. C'est un langage qu'on ne comprend pas et pourtant... on se laisse complètement porter par son flot, par son sens, même sans savoir peut-être dire de quoi il parle.
Oui, parce que c'est un langage, voyez-vous, qui retire immédiatement ce qu'il pose. C'est-à-dire qu'il y a un pas qui est fait en avant pour essayer de dire quelque chose et on s'aperçoit que ce qui est dit doit être dédié. D'ailleurs, le texte lui-même le dit. Que tout dit doit être dédié parce que à peine a-t-on fait un premier pas qu'on fait deux pas en arrière parce que justement on a déjà raté ce dont il s'agit. C'est cette difficulté extraordinaire qui est cristallisée dans ce langage très 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 spécial, inventé, une sorte d'idiome poétique.
On a l'impression n'a aucun référent extérieur, s'autoproduit, s'autogénère.
Oui, sauf que il est question quand même de quelque chose. Vous avez vu, il est question des mains, il est question d'un corps, il est question d'une lumière et d'une pénombre. Il est question de quelque chose qu'il s'agit de capter avant qu'il n'entre dans le néant complet. Il y a quelque chose qui résiste au néant, et ce qui résiste au néant, il l'appelle le moindre. Le moindre, c'est vraiment l'ultime limite qui fait que on va après le moindre, il n'y aura plus rien. Bon, eh bien, ce moindre, il m'a semblé pouvoir nommer, désigner ce qu'est le soi. Le soi par rapport au moi. Le moi, évidemment, a de nombreuses qualités, de nombreux attributs. En fait, le moi est fait d'une quantité toujours variable d'attributs. Je suis qui je suis français,
grand, petit,
je suis grand, j'ai les yeux bleus, je
gentil,
suis chauve,
méchant.
Gentil, méchant. C'est un ensemble d'attributs qui constituent la sphère du moi. En revanche, le soi, qui porte justement à l'unité l'ensemble de ses attributs, on ne peut rien en dire d'autre que c'est un moindre, si vous voulez. On ne peut pas dire que c'est rien, parce que justement, si c'était rien, il n'y aurait même pas de moi, puisque le moi doit être lui-même pour être un moi. Eh bien, Je n'ai trouvé que dans ce texte de Beckett une forme de catégorisation possible, qui n'est qu'une catégorisation poétique de ce que peut être ce soi. Alors, je l'appelle le moindre soi, et c'est une subjectivité minimale, et nous sommes en quelque sorte posés sur le plan de la vie, sur l'extrême pointe de cette subjectivité minimale, dont on ne peut dire qu'une chose, c'est « je m'éprouve soit sur le mode d'une jouissance, soit sur le mode d'une souffrance, mais dès lors que je n'éprouve ni l'un ni l'autre, je sais que la vie m'aura de toute façon déjà échappé ».
Mais c'est aussi une forme de fatalité, ce soi. C'est-à-dire que quand on en parle en termes de jouissance ou de désespoir, quand on écoute Beckett ou quand on écoute Rousseau, ce sentiment d'exister, ce sentiment intérieur, est un sentiment génial, exaltant. Mais
non, il peut être aussi désespérant, comme je vous l'ai dit.
Mais c'est quelque chose de fort qui nous étreint et qui nous embrasse. Alors que le soi, c'est aussi ce constat fatal que l'on ne peut pas être autre chose que ce soi. Que ce soi, c'est... alors comment le définir ? Ce n'est même pas un substrat, c'est un moindre soi sur lequel on bute sans cesse. On ne peut pas être quelqu'un d'autre, autre chose, un autre moi que son soi.
Alors ce que vous venez de dire, nous introduit à une autre problématique qui est extrêmement importante à mes yeux, c'est celle d'une redéfinition de la finitude humaine. Il y a plusieurs manières de dire que l'être humain est un être fini. Dans la tradition philosophique, il y en a plusieurs. D'abord, c'est un thème qui est lié à la finitude de la vie elle-même, au sens où nous sommes mortels et que la vie a une finitude temporelle. Ça peut être aussi un thème chrétien qui est celui de la créature qui est finie par rapport à Dieu qui est infini. Il y a aussi une autre manière de parler de la finitude humaine en philosophie, c'est de dire que étant des êtres sensibles, nous sommes toujours assignés à quelque chose qui nous vient du dehors. Nous sommes finis parce que nous sommes réceptifs. Nous sommes en situation de réceptivité dans l'espace et dans le temps de quelque chose qui nous échoit. Et puis, il y a cette autre forme de finitude que vous avez très bien désignée, qui est le fait que nous ne pouvons jamais être autre que nous sommes à chaque fois.
C'est terrible.
Alors, ça peut être vécu sur un mode déchirant, bien sûr, sur un mode désespérant, et c'est bien le sens que Kierkegaard donne du désespoir dans son traité du désespoir, où le désespoir, c'est justement le fait de ne pas pouvoir être un autre que soi, mais en même temps, c'est le fait de vouloir être un autre que soi, et plus on le veut, et moins on le peut. Et c'est cette assignation à soi-même, si vous voulez, qui définit à mes yeux la finitude qui est celle de la vie vivante. Si vous voulez, la vie qui n'a pas encore affaire à sa limite, qui est celle de la mortalité. Cette assignation à soi, le fait que je ne peux pas être un autre que celui que je suis, eh bien, peut amener l'être vivant, et l'être vivant humain, c'est-à-dire le corps parlant, à se lancer dans des aventures qui peuvent être à la fois de l'ordre d'une sorte de salut existentiel personnel, on en parlera peut-être tout à l'heure en abordant la question de la création, ou bien au contraire, elle peut l'amener à la volonté de se défaire de soi. Et se défaire de soi, cela peut mener à la mort.
Ou alors, c'est peut-être se défaire de soi, c'est peut-être aussi vouloir se réinventer ou vouloir...
Oui, bien sûr.
Est-ce que ça, c'est impossible aussi de vouloir se réinventer ?
Non, au contraire, nous ne cessons d'ailleurs de le faire précisément parce que nous sommes mus, nous sommes portés par cette finitude de ne pas pouvoir être un autre que nous-mêmes, eh bien, nous ne cessons justement d'essayer de nous inventer, de nous recréer en prenant le visage de tel ou tel, en prenant, en endossant telle ou telle fonction, et nous avançons ainsi dans la vie. Nous sommes une sorte de réinvention permanente de celui que nous ne voulons justement pas être.
Ou celui qui est assigné à une place et qu'on n'a pas envie d'incarner. Je pense notamment à un autre de votre essai qui est aussi paru ces dernières semaines. C'est la figure de l'adolescent qui, à ce moment-là, est un croisement où il doit se transformer et où il refuse aussi d'être assigné à une place à laquelle les parents lui ont consciemment ou pas installé.
Pas seulement les parents, vous savez, c'est la vie elle-même qui lui a assigné cette place-là. Ce sont ces conditions qui sont celles de sa naissance, qui sont celles de son milieu social, qui sont celles de sa famille, mais ça peut être absolument n'importe quel milieu qui le ramène à lui-même et à justement cette prise de conscience qu'il est toujours rivé à lui-même, que cet être acculé à être soi est quelque chose qui à la fois lui donne sa consistance individuelle, mais qui en même temps peut le faire chavirer.
Mais c'est ta musique d'arabe,
là. Putain, frappe, merde.
Dans ta chambre, je frappe. La salle de bain, c'est pour nous deux. Tu sais quoi?
Tu te masturbais? Tu pensais à quoi?
À toi. Non, c'est bon, l'intimité, la pudeur, tu connais, là.
Oh là là. Je t'ai porté là, alors c'est pas à moi que tu vas faire le couplet sur l'intimité entre les gens, hein.
Mais tu me fais chier. Tu me fais chier. Tu me fais chier. J'en ai marre, là, ok? Putain, tu m'emmerdes, ok? Putain. Moi, si ça continue, j'appelle l'enfance maltraitée.
Eh ben, appelle-les. Appelle. Tu vas te retrouver dans un foyer, tu seras bien content.
Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Oui, je serais bien content. Parce que toi, tous les jours, tu me casses les couilles avec ta branlette. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Putain, on peut plus se branler tranquille dans cette maison.
Alors ça, c'est la version contemporaine de l'adolescence. C'est la version incarnée par Vincent Lacoste dans Les Beaux Gosses, le film de Riyad Sattouf. Mais vous, Paul Audy, vous faites appel à un autre adolescent type. C'est dans un tout autre genre. On va tout de suite l'écouter.
J'ai... Depuis peu, pourquoi, je n'en sais rien, perdu toute ma gaieté, abandonné mes habituels exercices, et de fait, mon humeur est si désolée que cet admirable édifice, la terre, me semble un promontoire stérile. Et ce dais l'air, si merveilleux, n'est-ce pas, cette voûte superbe du firmament, ce toit auguste décoré de flammes d'or. Tout cela n'est plus pour moi qu'un affreux amas de vapeur pestilentielle. Quel chef-d'œuvre que l'homme, la merveille de l'univers, le parangon de tout ce qui vit. Et pourtant, que vaut à mes yeux cette quintessence de poussière? L'homme n'a pas de charme pour moi, non. Et la femme non plus.
Paul Audy, là c'était Hamlet que vous définissez comme l'exemple type de l'adolescence et dans votre livre Au sortir de l'enfance. Alors on a entendu deux versions, deux manières d'être rivé à soi quand on est adolescent. Donc l'adolescent qu'on a tendance à caricaturer sous ses traits dans le film de Riyad Sattouf, Les Beaux Gosses, qui est oppressé par sa mère, qui ne peut pas se masturber tranquillement. Et puis, il y a Hamlet qui en veut au monde entier.
Oui, c'est une... ça me surprend, ce collage, en fait, est très ingénieux, puisqu'il montre effectivement les deux faces de l'exaspération adolescente. Il y a effectivement dans l'un et dans l'autre, si on entend bien ce qui est dit, il y a cette accent qui est porté sur l'espace dans lequel le soi peut se déployer. Or, cet espace, justement, il est tout à fait plastique. Il est, il prend des dimensions diverses en fonction, justement, des situations. Et dans le cas de l'adolescent hurlant du film de Satouf, on a là une sorte de révolte contre l'effraction, l'intrusion de l'autre dans cet espace que l'on essaye de déployer autour de soi pour pouvoir justement respirer. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, vous avez pris l'exemple de la masturbation. Bon, c'est très intéressant puisque l'exemple de la masturbation est un exemple où l'adolescent en question est en train de se chercher un moment, un temps, un lieu qui est tout à fait privé, propre à lui, dans lequel il va pouvoir jouir de quelque chose alors que d'ordinaire il ne jouit plus de rien. Donc il voudrait s'accorder ce moment de jouissance, et ce moment est perturbé justement par l'intrusion de la mère, par le regard de l'autre, par cette violence qui est faite à cette disposition intime. Bon. Dans le cas de Hamlet, c'est autre chose. Il s'agit effectivement, vous avez raison de dire que c'est une récrimination infinie qui se porte sur le monde. Plus rien n'a d'attrait à ses yeux. Il est profondément désespéré et dégoûté.
Même l'air l'insupporte.
Même l'air l'insupporte. Il parle de vapeur pestilentielle. Et il dit que la terre lui semble être un promontoire stérile. Ce rejet, si vous voulez, est dû au fait qu'il n'arrive plus à avancer. Il est en quelque sorte bloqué sur un des barreaux de l'échelle qui est censé le faire monter, le faire en quelque sorte grandir. Bon, il n'arrive pas, il est bloqué, il n'arrive pas à grandir. Et bloqué dans la situation où il n'a plus d'autre choix que d'en vouloir en quelque sorte au dehors, de le rendre responsable de la situation dans laquelle lui-même se trouve, et d'ironiser quant à ce que les adultes disent de l'homme. Parce que les adultes qui sont en quelque sorte de l'autre côté de la barrière donnent des qualificatifs au fait d'être un homme qui lui semble à lui totalement inadéquat et même insupportable, parce qu'il ne voit pas justement à quel point il peut se tirer de cette situation où il est réduit, il est acculé à éprouver ce qu'il éprouve.
À éprouver, à être lui-même finalement, c'est cette butée sur soi dont on parlait.
Alors, lorsque la butée sur soi devient paralysante, eh bien, effectivement, elle prend ce visage d'un être désespéré qui n'a plus qu'une seule question en tête, c'est être ou ne pas être.
C'est aussi la question de l'adolescence. On a parlé de la jouissance ou du désespoir comme moment où apparaît ce sentiment de soi, ce sentiment de l'existence, comme dirait Rousseau, ce sentiment intérieur, comme vous dites, Paul Audy. Mais l'adolescence, précisément entre cet âge adulte que l'on ne trouve pas à la hauteur ou auquel on n'arrive pas à se hisser, ou l'enfance de laquelle on est en train de sortir, finalement, l'adolescence, c'est précisément ce moment-là. Ça n'est même pas un âge ou un passage. C'est uniquement un problème, finalement. C'est véritablement là où on bute, parce qu'on n'arrive pas à dépasser, on ne pourra jamais revenir en arrière et on n'arrive pas à avancer.
Alors il y a des raisons physiologiques à cela, bien sûr. Nous sommes en pleine mutation, le corps lui-même se découvre, il découvre sa propre potentialité, il la découvre notamment dans la sexualité, et cela donne à la fois, si vous voulez, à l'adolescent un sentiment de puissance et même de surpuissance, parfois. Il sent qu'il n'y a pas de limite, il cherche la limite, il la cherche même dans le regard d'une autorité qui viendrait se poser sur lui juste pour le ramener à une dimension supportable de sa propre puissance. Et puis en même temps, ça peut être un sentiment déchirant d'impuissance absolue. tout ce qu'il tente n'aboutit à rien. À chaque fois qu'il essaye de faire un mouvement, en fait, il ne fait que reculer. Cette dualité est une dualité qui se rapproche singulièrement au moment de l'adolescence, et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un moment de crise, parce que chaque accès de surpuissance est sanctionné par une conscience d'impuissance immédiatement. Et les deux mêlés, si vous voulez, mettent le sujet humain dans un état d'interrogation vertigineux qui l'amène justement à douter de soi. À travers un phénomène aussi qui est propre à l'adolescence, c'est la découverte des multiples facettes et des multiples visages de la honte. J'ai honte de moi, j'ai honte de mes parents, j'ai honte de ressembler à mes parents. Je vois que mes parents eux-mêmes pourraient avoir honte de moi. Cet espace saturé par la honte est tout à fait propre à l'adolescence. Et le thème du regard, d'être vu, de ne pas être vu, comme vous en êtes rendu compte à travers l'extrait que vous avez passé, devient une des dimensions capitales. On cherche en quelque sorte à disparaître aux yeux des autres, pour essayer de s'apparaître à soi-même, mais comme rien n'apparaît, en fait, on se livre encore plus au regard des autres.
C'est une sorte de paradoxe de vouloir à la fois se dissimuler et en même temps, du coup, être surexposé.
C'est un âge paradoxal. C'est un âge où les paradoxes s'accumulent, s'additionnent, d'où la grande difficulté qu'il y a à sortir de l'adolescence, qui est un thème très important. Comment sort-on de cette adolescence ?
Mais oui, puis est-ce que l'adolescence passe ? C'est-à-dire que parfois, on parle souvent de personnes en disant ce sont de grands enfants, et finalement en fait ils sont aussi adolescents, et on se demande si on en finit avec cette honte de soi et s'il n'y a pas toujours des butées contre nous et des moments où on essaye à la fois de se cacher et en même temps on en montre plus sur nous-mêmes.
Alors heureusement que nous en sortons, mais je crois que nous réactivons ces moments vécus au moment de l'adolescence à plusieurs moments de sa vie d'adulte. C'est-à-dire que on peut très très bien évidemment avoir le sentiment d'être sorti de cet espace de crise, mais il arrive que à la faveur de tel ou tel événement de sa vie d'adulte, nous retrouvions et nous ravivions des comportements qui sont liés à ce que nous avons vécu au moment de l'adolescence, précisément parce que nous retrouvons soit le désespoir, soit la honte,
soit la pure jouissance, soit la découverte de la jouissance.
Soit cette forme de surpuissance dont nous parlions et qui nous rend ivres de nous-mêmes.
Est-ce qu'on peut avoir le sentiment de soi-même sans passer par un état de crise, sans passer par un état extrême ? Est-ce qu'on peut juste se demander si l'on est s'éprouver soi et en avoir conscience sans forcément avoir l'impression d'être un adolescent
Oui, enfin, le sentiment de soi, nous l'avons à chaque instant, à tout moment. C'est bien en ce sens-là que nous avons le sentiment d'être en vie, c'est-à-dire d'être là, maintenant, je vous parle, je suis heureux et gai de vous parler. Ça me fait plaisir, évidemment, et je me sens vivant
aussi,
à le faire. Non, mais je me sens vivant à le faire. Je pourrais écouter une musique attristante et à ce moment-là, je me sentirais tout aussi vivant, précisément parce que j'éprouve de la tristesse. Nous nous sentons à tout moment nous-mêmes, mais il est évident que il y a certains phénomènes, certains événements de la vie qui ont cette force d'emphase, si vous voulez. Ça, on peut en quelque sorte voir le trait beaucoup plus grossi de ce que nous éprouvons au quotidien, à chaque instant. Et cette pointe dont parlait justement Rousseau dans l'extrait de la cinquième promenade des rêveries du promeneur solitaire, eh bien, ce qu'il éprouve à ce moment-là, et il l'éprouve dans des conditions, si vous voulez, que l'on pourrait appeler des conditions de réduction phénoménologique. C'est-à-dire qu'il y a une mise entre parenthèses du reste du monde, il y a une mise entre parenthèses de tout ce qui, par ailleurs, est présent, pour justement amener le sujet humain à porter son attention sur ce sentiment de l'existence qu'il éprouve dans des conditions très particulières, de cette façon réduite, si vous voulez. Et cette réduction, elle est importante, par exemple, dans le texte de Beckett. Ce personnage qui, dont on ne sait pas qui il est, dont on ne sait rien, mais qui est un corps, et qui est un corps qui éprouve sa propre disparition, sa propre raréfaction, si vous voulez, il devient de plus en plus rare à lui-même. Eh bien, ce corps-là, justement, devient objet d'une parole politique parce que il est pris dans une forme de réduction, une réduction littéraire. Voilà, l'homme n'est plus réduit qu'à quelques mouvements. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, on peut en dire que, justement, il n'est que ces mouvements-là qui s'éprouvent selon une certaine tonalité.
Homme de constitution ordinaire, la chair n'était-elle pas un fruit pendu dans le verger? Aux journées enfantes, le corps un trésor à prodiguer. Ô aimé, le péril ou la force de Psyché. La terre avait des versants fertiles en prince et en artiste, et la descendance et la race vous poussaient au crime et au deuil. Le monde, votre fortune et votre péril. Mais à présent, ce labeur comblé, toi, tes calculs, toi, tes impatiences, ne sont plus que votre danse et votre voix, non fixées et point forcées, quoique d'un double événement d'invention et de succès, une raison. En l'humanité fraternelle et discrète, par l'univers sans image, la force et le droit réfléchissent la danse et la voix, à présent seulement appréciées. Les voix instructives exilées, l'ingénuité physique amèrement racise, adagio. Ah, l'égoïsme infini de l'adolescence, l'optimisme studieux, que le monde était plein de fleurs cet été, les airs et les formes mourants, un cœur pour calmer l'impuissance et l'absence, un cœur de vers, de mélodies nocturnes. En effet, les nerfs vont vite chasser.
Vous écoutez France Culture, Les Chemins du Vendredi, en votre compagnie. Paul Audy, tout ça rime, comme chez Rimbaud que l'on vient d'écouter. C'était un extrait des Illuminations, c'était le poème Jeunesse. Alors ce n'est pas le poème en entier, c'est la partie 2 et 3 interprétée par Vincent Schmitt. Vous citez ce poème dans Au sortir de l'enfance. Rimbaud, c'est un petit peu l'éternel adolescent qui aurait trahi son idéal de jeunesse, la poésie, en arrêtant tout à coup d'en faire. Et alors que finalement, pour vous, c'est ce que vous dites aussi, il en est sorti, mais finalement, en fait, il a réussi à sortir de l'adolescence, il a réussi à sortir de cette saison en enfer.
Oui, je crois qu'il a vraiment réussi à sortir, et c'est précisément pour cela qu'il arrête d'écrire. Cette sortie justement de la saison en enfer qui est justement l'adolescence l'a amené à écrire Les Illuminations. Les Illuminations, c'est vraiment le récit et enfin le une sorte de tableau de cette sortie glorieuse de cette saison en enfer, cette résurrection, cette manière de se retrouver vivant dans un corps de chair et capable de partir, enfin de partir et de quitter ce lieu. Bien, dans Les Illuminations, il y a justement un ton d'exaltation, il n'y a pas un ton de déploration. il y a quelque chose qui est de l'ordre des cymbales, si vous voulez, qu'on vient entrechoquer pour que ça retentisse. Il y a ce que Rimbaud appelle lui-même le départ dans les bruits neufs. Enfin, c'est véritablement cela qui est en jeu. Alors, le poème jeunesse a ce grand intérêt, c'est qu'il décrit justement la crise adolescente. Il lui donne des mots, on les a entendus. L'égoïsme infini de l'adolescence, l'optimisme studieux, c'est-à-dire laborieux, la manière de vouloir y croire malgré tout. Alors on se force à y croire parce que rien ne nous porte à y croire. Mais je crois qu'il y a aussi, il y a la nomination de ce que c'est que l'événement de sortir de l'adolescence. Dans ce poème, Rimbaud appelle ça le double événement d'invention et de succès. Alors, invention est très important ici, car une des voies de la sortie est véritablement de s'emparer de son impulsion créatrice, comme dit Rimbaud, c'est-à-dire de prendre les voies de la création. Et les voies de la création, elles sont évidemment multiples, elles ne sont pas simplement artistiques. Mais en tout cas, une des voies de sortie de l'adolescence, c'est justement la capacité de créer. Et de créer une œuvre, c'est-à-dire quelque chose qui peut être posé à distance de soi et qui n'est pas simplement le reflet d'un état psychologique comme pourrait l'être ce qu'on appelle la création adolescente. Dans ce cas-là, justement, il y a la constitution ou l'instauration d'une œuvre d'art.
Vous parlez, Paul Audy, dans votre... on a parlé notamment de deux de vos essais, Au sortir de l'enfance, analyse du sentiment intérieur. Il y a un troisième essai de vous qui est paru. C'est « Et j'ai lu tous les livres, Mallarmé s'élance ». C'est donc une sorte de pas franchi, de trait d'union fait entre Mallarmé, poète français, et s'élance, poète contemporain, beaucoup plus récent, poète d'origine allemande, que là, du coup, on découvre rapproché. Et on retrouve cette réflexion que vous venez de développer sur cette idée de création qui ne soit pas forcément artistique. On a souvent tendance à dire que la poésie relève de l'art, mais là, vous en faites quelque chose de beaucoup plus fort que ça, en fait, quelque chose qui relève plus de l'esthétique.
De l'éthique, plutôt, je dirais, que de l'esthétique. C'est-à-dire que, dans le cas, si vous voulez, de la modernité en poésie, et j'ai essayé, si vous voulez, de manière... un peu pédagogique, de marquer les deux termes de cette aventure moderne. Il y a Mallarmé au 19e qui ouvre un chapitre de la poésie qui est la poésie moderne dans son acception moderniste. Et puis il y a à l'autre pointe, 100 ans plus tard, il y a Paul Celan qui va s'expliquer avec Mallarmé pour en quelque sorte refermer cette parenthèse moderne. Paul Celan est à la fois un poème moderne, mais un poète qui justement prend acte du fait que l'on ne peut plus faire de la poésie compte tenu de ce qui s'est passé au XXe siècle. Donc, il faut...
Compte tenu de la Shoah.
Oui, évidemment. C'est l'événement qui aura cassé l'histoire en deux. Et prenant acte de cette réalité, eh bien, il s'est posé, comme d'autres artistes et d'autres penseurs à la même époque, il s'est posé la question de savoir, mais est-ce qu'on peut encore écrire comme on le faisait. Ce double chez Celan, à cette interrogation, une autre vient en quelque sorte s'appuyer sur cette interrogation, c'est que pour Celan, la grande difficulté, puisqu'il est poète de langue allemande, c'est de parler dans la langue du bourreau. Alors, comment faire pour écrire dans la langue du bourreau? Il faut... Alors, l'importance de la pensée poétique et poétologique de Paul Celan vient du fait que, dans un texte comme Le Méridien, qui est un discours qu'il a prononcé à la fin des années 50, ben, il oppose l'artistique et le poétique. Et il essaye de penser cette dualité jusqu'au bout. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, dans le poétique, n'est pas victime de l'artistique, donc d'un code convenu, de quelque chose, ce que l'on comprend, et comment le poétique, en quelque sorte, ouvre l'avenir? Quelles sont les conditions pour que le poétique ouvre l'avenir à une oreille qui n'est pas encore, qui n'est pas encore rompue à ce qui est dit, donc une oreille totalement ouverte à l'événement imprévisible d'une contre-parole, comme il le dit, une contre-parole qui peut enfin dire quelque chose qui n'est pas capté dans une langue qui est déjà chargée d'une histoire terrible, d'une histoire qui porte le deuil d'un peuple entier. Donc voilà ce qui est en jeu dans ces questions-là. Elles sont très importantes et je crois que le poétique doit faire l'épreuve de son opposition à l'artistique pour exister.
Et de son opposition aussi, peut-être, ou plutôt de la possibilité qu'il dessine pour le soi, puisque c'était le fil conducteur aussi qu'on a eu durant cet échange, Paul Audy,
oui, alors,
de l'ouverture.
Oui, alors ce qui est intéressant dans le texte de Paul Celan que j'analyse dans ce livre, c'est que alors que Baudelaire se posait la question « qu'est-ce qu'un poète ?», Mallarmé se pose la question « qu'est-ce qu'un poème ? » Et Celan vient en quelque sorte refermer cette histoire en posant une question très particulière, très curieuse, difficile à poser, c'est qui est le poème ? Qu'est-ce que c'est que cette singularité absolue qui porte le nom de poésie et qui fait qu'il n'y a qu'un seul individu qui puisse le prononcer et peut-être qu'une seule oreille qui puisse l'entendre.
If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains around my feet, you know that ghost is me, and I will never be set free as long as there's a ghost that you can't see.
Merci beaucoup, Paul Audy.
Merci à vous.
Donc, je rappelle que l'on peut lire de vos éditions Verdi, Analyse du sentiment intérieur et au sortir de l'enfance, mais aussi, et j'ai lu tous les livres Mallarmé, Celan, parus aux éditions Galilée. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Adèle Vendrette bien sûr, David Pargamin, Marianne Chassor, Claire Perriman-Holt, Maude Markiewicz, Olivier Bétard à la réalisation, Vincent Schmitt à la lecture des textes cette semaine et Alexandre Dang à la prise de son aujourd'hui et aussi bien sûr Kostia et Eline qui nous ont accompagnés toute cette semaine. La semaine prochaine, vous retrouverez Adèle Vendrette pour une nouvelle semaine des Chemins de la Philosophie sur le consentement. Qu'est-ce que le consentement ? Qui ne dit mot consent-il vraiment ? De l'histoire de ce concept à Camus, de Lolita de Nabokov au droit. Découvrez 4 émissions dès lundi en écho, bien sûr, avec l'actualité de ces dernières semaines. Mais d'ici là, pour écouter cette émission et toutes celles de cette semaine sur la croyance, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales. Et puis rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Chemins de la Philo pour retrouver toutes nos émissions.